Griffe. Griffe. Les cultures bites.
Les cucurbitacées, présentées par Aurélie.
Elle est dans nos studios, bien installée, assise bien droite sur sa chaise, une chemise noire à pois blancs. L'allure carrément parfaite, comme on pourrait dire. Et depuis qu'elle est arrivée chez Griffe, on cherche une mèche qui dépasse. On trouve rien. Aujourd'hui, les cucurbitacées reçoivent la photographe qui dit elle-même qu'elle ne laisse rien au hasard. Audrey Piguet, salut.
Hello.
Comment tu te sens dans ce studio ici chez Griffe? C'est moins ordonné que ta coiffure, disons.
Non, mais super, très bon accueil, donc c'est parfait.
On a lu que tu étais très perfectionniste, mais vu que la radio, c'est trois imperfections à la minute et en moyenne un accident toutes les heures, tu acceptes ce risque avec nous?
Mais avec plaisir.
On se réjouit de se risquer au jeu des cultures bitacées avec toi pour parler de photos pendant toute une heure. Bienvenue. On parlera de photos parce que c'est ce que tu fabriques, Audrey Piguet. On parlera aussi d'un livre tout juste sorti de chez L'Âge d'Homme. Ça s'appelle Dark Glow et c'est toi qui le pond. Mais on parlera aussi de musique et de cinéma parce que comme tous ceux qui passent dans cette émission, tu as dû diriger notre rédaction vers des sujets qui t'intéressent. Mélanie et Marie-Lu sont bossées pour toi et on écoutera leur boulot au cours de cette émission. Mais voici déjà un mot de leur part.
Les cultures bitacées.
La rédaction veut te parler.
Salut Audrey, c'est Mélanie. Tu m'as demandé de regarder le film Le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro. Je me suis plongée dans ce conte de fées pour adultes, un conte horrible qui se déroule en pleine Espagne franquiste. Et attention spoiler, j'ai pleuré alors que je suis morte à l'intérieur. Pleurer tellement c'était beau ou pleurer tellement j'étais contente que le film se termine enfin. Tu le sauras plus tard dans cette émission.
Audrey, il faut que je te remercie. Ça faisait un moment que j'avais plus Tool dans les oreilles et du coup quand tu nous as demandé de nous intéresser à leur album Lateralus, j'ai sauté sur l'occasion pour me remettre dans le bain. Je l'avais écouté en boucle à l'époque et en préparant la chronique, j'ai eu des bouffées de chaleur. Lateralus, c'est toujours aussi puissant, universel et ça m'a carrément donné des spasmes. J'ai refait le tour de cette œuvre d'art à leur résultat tout à l'heure. Toi aussi Audrey, t'es amoureuse du chanteur Maynard James Keenan?
Alors Audrey Piguet, c'est aussi les hormones comme Marie-Luce qui te font aimer Tool?
Peut-être pas les hormones, mais c'est vrai que Maynard est un génie pour moi au niveau musical. Et puis il y a tout cet univers aussi qui est très visuel, qui gravite autour de Tool et des autres groupes aussi qu'il a créé, Perfect Cycle, Pussifer. Et c'est vraiment le tout, moi, qui me fascine.
La musique expérimentale de Tool et le labyrinthe de Pan, c'est ce qu'on accrochera à notre sapin de Noël aujourd'hui. Mais le gros bois de notre émission, il sera fait de toi, Audrey Piguet, de tes photos, de ton livre de photos.
Les cultures bitacées.
25 ans depuis cet été, cet automne elle sort un livre, mais aujourd'hui avant l'hiver, la photographe Audrey Piguet est dans les cultures bitacées.
Griffe, les cultures bitacées.
Dark Glow, c'est le titre de ton livre qui sort chez L'Âge d'Homme. Sombre éclat, c'est comme ça que tu le traduis toi aussi?
Oui, voilà, l'idée c'était un peu de trouver un titre qui représentait bien cette dualité qui est tout le temps présente dans mes images, que ce soit une opposition entre le réel et l'imaginaire, entre justement cette luminosité et parfois cet aspect un peu plus sombre qu'on peut trouver dans mes images, et du coup de parler un peu de cette opposition qui est présente aussi dans notre vie et qui pour moi a une grande importance.
C'est vrai qu'on y trouve, quand on l'ouvre, des contrastes nombreux, mais avant de l'ouvrir, on a en main un bel objet, un livre de 140 pages, 30 cm par 30 cm, bref, un objet lourd. Qu'est-ce qu'on ressent, Audrey Piguet, quand on reçoit son propre bouquin dans les mains?
Alors, ça fait très bizarre. C'est un peu une fierté, enfin, c'est même une très grande fierté. C'est un peu une sorte d'accomplissement, comme le fait de faire une exposition, mais en puissance 1000, en fait, de voir tout son travail comme ça, enfin, une grande partie de mon travail regroupée dans un livre. Et un aussi beau livre, c'est vraiment une chance de pouvoir faire ça à mon âge.
Pourquoi c'est plus fort comme sentiment qu'une exposition?
Parce que ça reste, tout d'abord. Une exposition, voilà, c'est... Elle n'a pas ce côté intemporel. Et puis, j'ai eu la chance aussi de pouvoir vraiment m'exprimer dans ce livre, de parler de comment je crée mes images, de parler de ce qui fait mon quotidien, de mes doutes, de mes joies.
Justement, voilà. Pour un livre de photos, c'est assez surprenant. Il y a aussi des textes de ta plume. La photo nue dans un livre, c'est quelque chose qui peut faire peur?
Disons que, pour être tout à fait honnête, au début, quand j'ai commencé à travailler sur ce livre avec les éditions de L'Âge d'Homme, je pensais, dans ma tête, je pensais faire un livre simplement fait d'images. Et puis, on m'a très justement fait remarquer que ça pouvait être intéressant, en fait, pour le lecteur de savoir comment je construis mes visions un peu rocambolesques, parfois, et puis de montrer l'envers du décor, qu'il puisse mieux comprendre, en fait, comment se crée une image et que ce n'est pas simplement appuyer sur un bouton et capter un moment.
On en parlera plus tard, parce qu'il y a un grand chapitre, près d'un tiers du livre, consacré justement aux coulisses, à la manière dont tu prépares tes images, mais t'accompagnes aussi tes photos de textes, de sorte de légendes presque poétiques. Qu'est-ce que la photo, pour toi, n'arrivait pas à dire ?
Ce n'est pas vraiment que mes photographies n'arrivaient pas à parler d'elles-mêmes, c'était plus en fait un challenge finalement, d'essayer de poser vraiment des mots concrètement sur mes idées, sur ce que je voulais créer. Et puis je pense que ça peut aussi aider le lecteur à se créer sa propre histoire.
Une fois qu'on l'ouvre ce bouquin dans l'intro, tu expliques que sans aucune prétention, tu aimes l'idée de pouvoir faire rêver les gens, de peut-être pouvoir engendrer une évasion de la réalité qu'est la nôtre. Qu'est-ce qui te fait peur, toi, dans cette réalité ? Qu'est-ce que tu essaies de fuir, Audrey Piguet ?
Oh, plein de choses ! Mais c'est peut-être mon côté un peu parfois pessimiste sur la réalité qui est la nôtre. Justement, moi, en fait, mon imagination et mon imaginaire m'aident parfois à m'échapper des obligations qu'on a dans notre quotidien. Voilà. Et du coup, j'aime cette idée de peut-être parfois pouvoir créer ça chez quelqu'un. Et puis, moi, ça m'arrive justement quand je vais voir une exposition et que je me retrouve en face d'une œuvre et que tout d'un coup, j'oublie tout ce qu'il y a autour de moi. Je trouve que c'est quelque chose d'assez magique. Et donc, c'est quelque chose que j'essaye d'atteindre modestement.
Donc, tes photos se retrouvent dans un livre, mais un livre, une fois imprimé, tu disais tout à l'heure que ça reste, mais en même temps, c'est presque déjà dépassé. Tandis que sur ton site internet, il y a déjà des nouveautés depuis la sortie de ton livre, une série qui s'appelle Wide Lips. Des photos de lèvres, juste de lèvres.
Exactement. Oui, alors c'est une série qui n'était pas encore finie quand on a travaillé sur le livre et donc j'ai décidé de ne pas mettre dedans. Et puis pour cette série, c'était vraiment l'idée de mélanger complètement l'être humain à l'animal. Je pense que l'être humain a une fascination depuis la nuit des temps pour l'animal, pour son apparence, pour son plumage. C'est pas pour rien qu'on porte souvent des choses qui ont un rapport justement avec l'animal, les imprimés léopards, etc., pour ne citer qu'un exemple. Et puis je trouvais justement cette sorte d'anthropomorphisme imaginaire assez intéressant.
En tout cas, ce sont ses lèvres, on ne sait pas s'il a un côté animal, mais ce sont ses lèvres sauvages qui ont inspiré notre programmateur.
Mais les cultures, quel son tu fais quand on te retourne ?
Fabrice nous propose un portrait de toi, Audrey Piguet, sans appareil photo numérique parce qu'il le manie, disons, plus ou moins bien. Lui, il dresse ses portraits avec un morceau de musique, c'est sa technique.
Les cultures bitassées.
Audrey, dans ton dernier projet Wild Lips, tu as réalisé des lèvres très colorées et animales. On y voit des tentacules, des dents ébréchées, des langues reptiliennes. Visuellement, c'est très léché et brillant. Sur cette base, je suis parti en quête de ton alter ego musical, quelqu'un qui, comme toi, emploie les outils numériques pour réaliser des créations glossy. Un musicien me semble plus que compatible avec tes photos, Jackson and His Computer Band. Comme son nom l'indique, il bosse avec un ordinateur et comme toi, il travaille seul. Il a un son très intense et aussi assez animal, et en particulier sur le titre G.I. Jane. C'est sorti l'année passée et dans ce morceau, il est question d'un alien qui pourrait sans autre porter l'une de tes bouches sauvages.
Oh. G.I. Jane par Jackson and his computer band. Un morceau qui tirait bien, selon notre programmateur Audrey Piguet. T'es d'accord avec ça?
Ouais, je suis assez d'accord, ouais.
En tout cas, Jackson et toi, vous avez un point en commun. C'est que vous ne boudez pas la technologie. Lui pour réaliser ses morceaux et toi pour réaliser tes photos.
Les cultures bitassées.
Ils sont rares les artistes qui expliquent volontiers leur méthode. Toi, Audrey Piguet, tu consacres un gros tiers de ton livre carrément à un chapitre qui s'appelle « Coulisses ». Et dans ce chapitre, tu expliques à peu près tout. Où tu fais tes courses pour créer tes costumes, comment tu colles tes plumes sur la peau d'un bras, comment tu utilises Photoshop, etc. Pourquoi c'est important pour toi de montrer ce qu'il y a derrière ?
Parce que je pense justement que ça peut aider les gens qui consultent mon livre à comprendre comment une image se crée. Et pour moi, c'est vraiment important justement de contrôler, entre guillemets, la création de A à Z d'une image. Et au final, je ne fais pas que le travail de photographe, mais je fais aussi un travail d'accessoirisation, de création, que ce soit au niveau du maquillage, des tenues. Et ça fait vraiment partie intégrante de ma démarche de photographe, tout simplement.
Est-ce que tu n'as pas peur que ça enlève quelque chose pour celui qui lit ton ouvrage, quelque chose à la magie de la photo finale ?
Je ne pense pas, non. Pour moi, c'est venu assez naturellement, en fait, le fait de parler de tout ça, parce que ben voilà, je n'ai rien à cacher, et puis ça fait partie de mon quotidien, donc voilà.
Dans ton bouquin, tu parles peu de photos, finalement. Pourtant, ce sont des photos que tu fais, mais tu décris ce que tu fais comme des images, des tableaux. Alors, comment il se crée un tableau chez toi, dans ton atelier ?
Bah justement, je parle de tableau parce qu'au final, la construction de une de mes images est très contrôlée et très rigoureuse. Et pour moi, ça s'apparente justement plus à la création d'un tableau qu'au final de faire une photographie un peu instantanée, comme ça, très sur le vif, en fait. Et puis, justement, je passe d'abord, en fait, je commence à faire un croquis pour poser l'idée. Et puis après, il y a tout un cheminement qui prend plusieurs jours, plusieurs semaines. Et ça peut se comparer à la création d'un tableau.
Tu dis que le hasard n'a pas de place dans tes créations. Tu parlais tout à l'heure de rigueur, de contrôle. Pourquoi tu as décidé un jour de laisser le hasard en dehors de ton atelier ?
Je crois que c'est quelque chose qui me vient depuis toute petite, honnêtement. C'est pas venu avec la photographie. Je crois que ça fait partie de mon caractère. Ce côté un peu psychorigide, avec une envie de tout contrôler, de tout maîtriser, entre guillemets, même si c'est pas possible de tout contrôler, bien évidemment. Et puis, je crois que c'est mon côté aussi assez cartésien. Peut-être pas vraiment artiste, pour le coup. Où je me laisse pas vraiment partir dans des délires un petit peu...
Est-ce qu'on arrive à être un artiste heureux en voulant tout contrôler ?
Je pense qu'il faut trouver le juste équilibre. Et puis en même temps, la photographie est un métier où il faut être très rigoureux, où il y a une partie très technique. Et donc ça se lit bien, en fait. Il faut être rigoureux pour faire de bonnes photos, quelque part.
Tu le caches pas, tu utilises Photoshop et tu l'assumes. C'est ce que j'ai pu lire quelque part. J'assume que j'utilise Photoshop. Est-ce que ça a quelque chose de mal vu dans le métier de trop travailler avec Photoshop ?
Parfois, le fait de trop retoucher une image, parfois on dit que voilà, c'est plus vraiment de la photographie. Dans le sens où on modifie tellement le réel qu'au final, ce qu'on montre n'est plus vraiment la réalité. Et le but, à la base, de la photographie, est de montrer le réel, de capturer le réel et un moment bien précis. Donc, parfois, il y a des débats justement là-dessus, sur le fait de trop retoucher une image. Moi, en l'occurrence, je l'assume complètement. Parce que sans cette étape de retouche, je ne pourrais pas créer tous ces univers fantastiques et imaginaires. Donc,
Finalement, on peut dire que ta photographie est aux frontières de l'art graphique ?
Pas vraiment. Oui, on pourrait, mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est que je pars d'une base qui est réelle, qui est concrète, qui existe. Et après, je la modèle grâce à l'ordinateur. Mais je ne crée jamais quelque chose qui n'a aucune base réelle. Donc, on ne parle pas de création 3D, ni de création graphique.
Est-ce que ça t'intéresserait, justement, par exemple, d'utiliser ces talents pour mettre au profit du cinéma ou de quelque chose de la sorte ?
Le cinéma peut-être, un jour, je ne sais pas. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans la photographie, c'est de choisir un moment bien précis et de décider de le figer. Dans le cinéma, c'est assez différent. On raconte une histoire à travers le temps. Dans le cas de la photographie, on n'a qu'une image pour raconter une histoire. Et c'est aussi ce challenge, moi, qui m'intéresse.
En tout cas, tu aimes les ordi et nous aussi, chez Griff, on utilise des ordinateurs pleins. T'as vu, on peut en compter au moins 10 d'où on est. On en utilise plein et on assume.
Griff, les cultures bitacées.
Audrey Piguet est avec nous dans les cultures bitassées et quand on demande à la jeune photographe de diriger nos chroniqueurs, elle les emmène directement dans un labyrinthe.
Les cultures bitassées. La chronique.
Oui, celle que tu as commandée.
Le labyrinthe de Pan, le film de Guillermo del Toro, est Labirinto del Fauno, en version originale, hein, le labyrinthe du faune, si on traduisait littéralement. Quand le film fantastique a été projeté en 2006 à Cannes, il a eu droit à une ovation. Et aujourd'hui, 8 ans plus tard, Audrey Piguet, est-ce que ça reste ton film de chevet ?
Je crois quand même, oui.
C'est celui que tu préfères d'entre tous ?
Peut-être pas d'entre tous, mais disons que c'est un film qui m'a beaucoup marquée, qui m'a touchée, que ce soit par rapport à l'histoire, par rapport au visuel. C'est un film, je crois, qui correspond bien à ce que justement j'essaie de faire dans mon travail.
Tel que tu l'as demandé, donc Audrey Piguet, Mélanie se plonge très profondément dans le labyrinthe de Pan et nous, on plonge avec.
On raconte qu'il y a longtemps, bien longtemps, dans le royaume souterrain, où n'existe ni mensonge, ni douleur, vivait une princesse qui rêvait du monde des humains.
Pourtant, le monde des humains du labyrinthe de Pan ne fait pas rêver. On y suit l'histoire de la jeune Ophélia, qui se réfugie dans ses contes de fées. C'est qu'elle vit en 1944 dans l'Espagne fasciste de Franco. Avec sa mère enceinte, Ophélia rejoint le capitaine Vidal, son salaud de beau-père qui combat les antifranquistes. Et c'est là, dans la Cambrousse, qu'elle découvre un labyrinthe qui l'amène dans un monde fantastique où elle va rencontrer un faune, mi-homme, mi-bouc, une créature étrange, faite de terre, de lierre et d'écorce d'arbre. Il annonce à Ophélia qu'elle est la princesse de ce monde souterrain.
Oh, c'est vous. Vous êtes revenus. N'ayez pas peur, je vous en prie. Regardez, regardez.
Ophélia devra alors réussir 3 épreuves pour revenir au royaume magique. Mais la réalité, elle, ne s'arrête pas. La maman d'Ophélia tombe malade, alors que son beau-père est déjà malade, un psychopathe cruel. Le labyrinthe de Pan est un conte fantastique qui nous plonge dans un univers de monstres, de fées, de crapauds gloutons, d'ogres dont les yeux sont plantés dans les mains. Un conte, mais pour adultes. C'est Hijo de puta, jalonne tout le film, comme pour dire « Fuyez les enfants !» La bande originale, structurée uniquement autour d'une berceuse, vous prévient que si le monde souterrain ne connaît pas la douleur, la réalité du fascisme, elle, n'épargnera pas Ophélia. C'est là toute la force du labyrinthe de Pan, cette dualité permanente entre la féerie du rêve et l'affreuse réalité. Le film est à la fois tendre et dur, magique et réaliste, touchant et cruel. On passe de l'un à l'autre alors qu'Ophélia poursuit ses aventures. Guillermo del Toro a créé un univers féerique aux couleurs chaudes, des rêves de rouge, d'orange, de fées qui volent autour d'Ophélia. La réalité, elle, est froide. La pluie bleue, la salle de torture noire, la mort sombre. Visuellement, c'est magnifique. Le film a d'ailleurs reçu 3 Oscars pour la direction artistique, pour la photographie et le maquillage. Un film cadeau pour un photographe, un film cadeau pour le spectateur.
Et quand on reçoit ta commande de chronique il y a quelques temps, on se dit que c'est pas pour rien. Entre le labyrinthe de Pan et ta photo, Audrey Piguet, on sent un lien étroit. C'est quoi ce lien-là pour toi ?
Je pense que c'est justement ce mélange entre le conte de fées et quelque chose de beaucoup plus sombre. Ce mélange entre le merveilleux et quelque chose de beaucoup plus réaliste et du coup de peut-être parfois un peu plus fatal. Et c'est cette dualité, moi, qui m'intéresse et qui fait partie de notre vie aussi.
C'est cet univers-là, c'est vrai, tes photos, un univers entre les plus jolis délires et les pires réalités. On va y entrer tête baissée, Audrey Piguet, ça, il faudra te préparer à tout nous expliquer, ce qu'il y a de plus sombre dans ton plus sombre inconscient.
Les culturbitacées.
Sa mère a déguisé en Wonder Woman, une femme serre avec des bois en diamant, l'ange Gabriel dans la mer, une sirène carrément. Voilà les photographies qu'Audrey Piguet présente dans un livre. Ça sort chez l'âge d'homme et ça sort aussi de ce qu'on voit d'habitude dans le champ de la photographie.
Les cultures bitacées.
Audrey Piguet, quand on plonge dans ton livre, on tombe dans un imaginaire complètement fantastique, parfois glauque aussi, hein, on le disait tout à l'heure, mais on est très très loin du photoreportage, de la réalité crue prise sur le vif. Tes photos à toi sont prises en studio, maquillées, préparées, costumées. La réalité toute nue, prise comme ça dans la rue, ça t'as jamais intéressé ?
Non, honnêtement pas. Je crois que c'est quelque chose qui correspond pas à mon caractère et à ma façon de voir les choses. J'aime justement pouvoir proposer une autre réalité, même si elle n'est pas forcément crédible souvent. Mais c'est vrai que de capturer la réalité en tant que telle ne m'intéresse pas. Il y a beaucoup trop de choses qui ne me plaisent pas, qui me rendent parfois triste ou qui ne me correspondent pas.
Il y a 2 ans, tu mêles ton univers fantastique à une cause pourtant bien réelle. La série s'appelle We Are Animals, des photos qui vont par deux. On a d'un côté la fourrure sur l'élégante dame et de l'autre côté le sang sur la bête. D'un côté la défense arrachée et de l'autre l'ivoire en bijoux sur un modèle absolument sublime. Si on te dit que tu fais de l'art engagé, tu réponds quoi ?
Oui, complètement pour cette série. C'est vrai qu'elle se distingue peut-être des autres images que j'ai créées. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je suis absolument contre ce genre de pratique, le fait d'utiliser certaines espèces animales pour nous rendre beaux. Je ne comprends pas ce geste-là. Et puis, justement, je me suis dit qu'à travers mon art, je pouvais en parler et puis proposer une vision peut-être plus esthétique que ce qu'on a l'habitude de voir. Et de ce fait, les gens ne détourneront pas le regard. Parce que souvent, quand on voit des images choc, voilà, il faut aussi les montrer, bien évidemment, il faut informer les gens. Mais disons que moi, ce n'est pas mon rôle en tant que photographe. Et du coup, j'ai mélangé ma vision de l'esthétisme à ce sujet très dur, très cruel et dont il faut parler.
Et comment on photographie de l'ivoire sans vouloir y toucher ?
Alors c'était très compliqué, même pour la fourrure, voilà, il a fallu que je fasse des concessions, que j'accepte d'utiliser de la vraie fourrure pour la prendre en photo. Et je pense que c'était justifié dans le sens où il fallait que je rende un côté crédible à mes images. Et il faut passer par cette étape dure pour montrer et parler de ce sujet.
J'ai lu que les bijoux d'ivoire étaient en pâte à sel.
Alors effectivement, les bijoux en ivoire ont été créés en pâte à sel. Je me suis bien amusée à tout modeler et tout créer. Donc bien évidemment, pour l'ivoire, ce n'a pas été possible d'utiliser du vrai ivoire, mais il n'empêche que le sujet est quand même traité, et que les gens peuvent comprendre, parce que je me suis rendu compte au final que beaucoup de personnes n'avaient pas conscience pour la fourrure, oui, mais parfois pour l'ivoire ou des choses un petit peu moins connues, les gens n'avaient pas conscience des souffrances que vivent ces animaux.
Cet automne, tu parlais d'autres animaux, les super-héros. Des photos de super-héros étaient présentées à la maison d'ailleurs, à Yverdon. Ta série s'appelait La chute du héros. C'est le nom de cette série qu'on retrouve d'ailleurs dans ton livre. Catwoman avec l'air chagriné, Wolverine qui a l'air d'avoir mal au poignet. Et une photo de la série qui a fait parler d'elle, un portrait de ta mère en Wonder Woman qui a plus tellement l'air Wonder sur cette photo. Tu nous la racontes ?
Alors, c'est vrai que c'est ma maman sur la photo. Et puis, en fait, je voulais casser cette image de Wonder Woman, qui est une femme forte, qui est une femme qui arrive à passer au-dessus de tous les échecs et tous les obstacles qu'elle peut rencontrer dans sa vie. Ici, je parle, en fait, plus que le fait de parler de Wonder Woman, je parle d'une femme qui a 50 ans, qui a vieilli, qui a vécu peut-être certaines choses assez dures dans sa vie et qui porte cela sur son visage. Et dans cette série, je parle bien sûr, on peut voir des super-héros, mais je parle surtout de nous et de ce qu'on peut vivre et de ce qui fait nos failles, en fait.
Toi, tu as dans ta bibliothèque, dans ta discothèque, un album qui est resté Wonder. C'est Lateralus de Tool. Audrey Piguet a voulu qu'on en parle dans les cultures bitacées. Ça tombe bien parce que Marie-Lu, c'est une fan.
Griffe. Les cultures bitacées.
Lateralus, le 3e album de Tool, ça sortait en 2001. Audrey Piguet, l'invité des Cultures Bitacées, nous renvoie directement au début du siècle.
Les Cultures Bitacées. La chronique. Oui, encore une pour toi.
Tool, tu écoutes ça en boucle ou plutôt religieusement avec parcimonie ?
Ah, les deux. Ça dépend des... Il y a des périodes où j'écoute vraiment que ça en boucle. Et puis parfois, je fais une pause et je redécouvre cet album. Et puis, c'est toujours un plaisir.
un disque que tu as aimé, que beaucoup ont aimé d'ailleurs, Lateralus, qui a eu un grand succès commercial, un Grammy même, pour la meilleure performance métal, même si on ne peut pas réellement ranger Tool dans le métal pur et dur. Selon la commande, Marilus s'est intéressée à cet album et c'est carrément un voyage initiatique qu'elle nous propose avec Tool et Lateralus.
Les cultures bitassées.
Un tournant Lateralus dans la carrière de Tool, qui sort ses premiers disques avec un son métal, mais déjà un peu biaisé par autre chose. La musique de Tool devient de plus en plus expérimentale au fil des années. En 2006, c'est grâce à Lateralus que le projet a atteint le statut de groupe mythique, inclassable, avec des éléments du métal, du rock progressif et des ambiances psychédéliques. Et du coup, je me suis demandé pourquoi ce disque a tant plu, pourquoi il est devenu un classique. Pour son format d'abord, à l'heure où les artistes sortent des disques toujours plus courts, Lateralus pèse 79 minutes de son, avec des morceaux longs et complexes dans leur composition. Un album qui perd complètement son auditeur aussi, qui est entré dans une longue et périlleuse marche funèbre, une folle aventure dans les bas-fonds incompréhensibles du moi. D'ailleurs, le titre de l'album est la contraction de Vastus Lateralis, un muscle de la jambe, et le Lateral Thinking, la pensée latérale, par opposition à la pensée classique. Tout un programme philosophique et scientifique. Pour suivre le disque, sa complexité et sa philosophie, il faut aussi s'intéresser aux mathématiques. Lateralus, le titre éponyme de l'album, intègre la suite de Fibonacci dans sa composition. Une séquence où chaque terme est la somme des deux termes qu'il précède, avec le schéma 1, 1, 2, 3, 5, 8 et ainsi de suite. Ça donne un morceau de malade. Les temps suivent exactement la séquence par moment. Les syllabes chantées par Maynard James Keenan aussi. Ce morceau est une véritable œuvre d'art et il devient carrément une métaphore de cet album mythique de Tool. Le meilleur pour beaucoup d'amateurs de Tool, un des groupes les plus charismatiques de ces dernières années. Depuis 10,000 Days en 2011, Tool n'a plus rien sorti. Il avait annoncé un nouvel album il y a 2 ans, mais depuis le groupe n'a pas arrêté de se moquer de la presse en disant tout et son contraire à 2 jours d'intervalle. Du coup, il semblerait qu'une suite se prépare pour Tool, mais comme le dirait un adage sacré qui va bien au groupe, vous ne saurez ni le lieu ni l'heure.
Tool a visiblement rien de nouveau à nous mettre dans les oreilles. Toi, Audrey Piguet, quand tu as de nouvelles photos dans ton escarcelle, tu t'y prends comment? Plutôt du genre flou avec la presse ou tu communiques avec des grandes annonces sur Facebook?
Oh, en général, je les mets directement sur mon site et puis après sur ma page Facebook. Et puis après, je les laisse un peu vivre par elles-mêmes, voir où elles partent, où est-ce qu'elles voyagent.
Les droits d'auteur, ce n'est pas quelque chose qui t'inquiète?
On a pas mal de chance en Suisse pour ça, donc non, ça va.
Communiquer et partager, c'est bien, mais vendre, c'est quand même mieux, ça. Est-ce que la photo, ça se vend en Suisse romande, réellement ?
Oui, ça se vend, et même en Suisse, de manière un peu plus globale. Oui, je pense qu'il y a un marché pour ça.
Et on peut en vivre ?
Que de la vente d'œuvres ? Honnêtement, pour ce qui est mon cas, c'est vrai que bah, c'est par période. Après, j'ai un travail commercial aussi à côté dans la photographie, où je suis plus dans le domaine de la mode et de la publicité. Donc toujours un travail en studio finalement, hein, toujours un peu cette même démarche.
Qui influence d'ailleurs ce travail dans la pub, influence ton travail artistique ?
Oui, je pense qu'il y a de toute manière un dialogue qui s'installe. Du moment qu'on a un travail artistique et un travail commercial, l'un dialogue avec l'autre, et puis certaines expériences qu'on peut avoir dans un certain milieu peuvent nous aider dans l'autre.
Maintenant qu'on a parlé gros sous, on peut te laisser tranquille, Audrey Piguet, tranquille, mais avec une question pour t'occuper pendant quelques 3 minutes. À quoi ressemble pour toi, Audrey Piguet, la photo parfaite ?
Les cultures bitacées.
Audrey Piguet a eu 3 minutes pour y penser, ou alors peut-être ça fait 25 ans que tu y penses, hein, on ne sait pas. Elle ressemble à quoi pour toi la photo parfaite ?
Je ne pense pas qu'il existe une photo parfaite, comme il ne peut pas exister une peinture parfaite ou une sculpture parfaite. Chaque création a sa propre existence, a sa propre histoire. Et puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est toujours un dialogue entre une œuvre et la personne qui la reçoit. Donc chaque personne va recevoir différemment une œuvre, avec sa propre sensibilité, sa propre interprétation. Et à partir de ce moment-là, franchement, à mon avis, il est impossible de définir ce qui ferait... une photographie parfaite.
Mais puisque tu penses tes photos bien à l'avance, que tu les croques même avant de les mettre en studio, c'est laquelle qui trotte dans ta tête maintenant ?
Plusieurs et aucune en même temps. C'est vrai que du moment que j'ai créé une image et qu'elle est terminée, je passe très vite à la suite. Et j'ai beaucoup de peine à regarder en arrière, même s'il faut le faire pour justement s'améliorer et évoluer. En général, après, je les laisse exister toute seule.
En te surveillant sur Facebook, on a vu que tu cherchais un modèle pour un prince.
Exactement. Oui, là j'aimerais avant la fin de l'année créer mon Funeral Prince pour ajouter justement un personnage à ma série funérale, qui est une série que j'ai commencée en 2011. En fait, j'essaye chaque année de faire une image avec toujours le même esthétisme, la même idée globale, et voir jusqu'où je peux pousser en fait ce concept, jusqu'où je peux pousser la complexité en fait de ces personnages.
Une famille royale, noir-blanc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce projet funéraire ?
Ce sont un peu des statues de marbre, c'est des personnages qui sont figés, on ne voit pas leur regard, ce qui est tout à fait volontaire. Et j'ai remarqué en fait que ça perturbait pas mal les gens qui voyaient ces images, le fait de ne pas voir leur regard. Et justement, les gens du coup n'arrivent pas à s'identifier, n'arrivent pas à identifier le personnage qui est sur cette image. Et du coup partent beaucoup plus simplement dans des interprétations libres et se créent leur propre histoire. Et c'était vraiment ce que je voulais faire aussi dans cette série, hormis le fait que... elle correspond entièrement à ma vision de l'esthétisme et de ce que j'apprécie de manière globale.
Une série qui n'a pour l'instant pas de fin. Par contre, les cultures bitacées, c'est bientôt terminé.
Fini. Terminé. On fait quoi maintenant ?
Audrey Piguet, tu publies Dark Glow, livre de photographie, avec un accès aux coulisses de tes créations. Ça sort chez L'Âge d'Homme. Ça sort 2 ans après que tu sois sortie d'école. Dans 10 ans, tu te vois où ?
Honnêtement, j'en ai aucune idée. J'espère que, et je pense que je ferai toujours de la photographie. J'espère que j'aurai réussi à m'améliorer, à faire des choses encore plus intéressantes et encore plus rigoureuses. Et puis, on verra bien où la vie me mène.
Merci d'être venue, de la vie t'a menée dans nos studios à nous. On en est ravis. Des studios radio, hein, pour une fois. Belle rentrée dans tes studios à toi, tes studios photo. Et les cultures bitacées mettent aussi la clé sous la porte pour cause de fêtes de fin d'année. Et oui, le petit Jésus vous prive de votre émission culturelle hebdomadaire, arrangez-vous avec lui. Ou alors, patientez jusqu'au 7 janvier, c'est ce mercredi-là que les cultures bitacées vont repousser. D'ici là, ciao.
Griffe. Griffe.